Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Deep Talk, émission sur laquelle je discute de l'actu tennis avec des acteurs et des actrices majeures de la discipline. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires. Aujourd'hui, un invité prestigieux de marque, une nouvelle fois. Il a été quatrième mondial, demi-finaliste dans trois grands chelems différents, vainqueur de la Coupe Davis en 2001 et aujourd'hui capitaine de l'équipe de France de cette même compétition. Il me fait l'honneur, je suis vraiment très content de t'accueillir, Sébastien, dans cette émission. Salut Seb.
Salut Deep, comment ça va?
Écoute, très bien. Je suis vraiment très content. Voilà, on se connaît depuis maintenant de nombreuses, très nombreuses années. Hein, le temps passe.
Hein, ça ne nous rajeunit pas. Passe trop vite. Trop vite, le temps.
Ça nous rajeunit pas. D'ailleurs, est-ce que tu sais où je suis là exactement? L'endroit d'un. Est-ce que tu reconnais?
Oui, je sais. Oui, je reconnais un petit peu. Ouais. Je reconnais un peu le kangourou.
Ce côté très moderne.
Tu sais. Ouais. Dans le sud de la France. Ricard, je dirais même.
Et tu me disais
c'est Arnaud Clément.
Exactement. Ouais. Tu me disais qu'il manquait quelques doudous.
Oui, c'est vrai que normalement, il y a quelques hiboux un peu cachés dans les placards.
Elle est où la collection de hiboux?
L'animal préféré d'Arnaud.
Bon,
D'ailleurs, il a un tatouage également.
Exactement, ça reste entre nous, mais il continue la collection, voilà, ce n'est pas terminé. Voilà, bon Seb, bon, comment tu vas, premièrement, ce confinement, comment tu l'as vécu aux États-Unis, chez toi?
Oui, tout à fait, c'était un peu compliqué pour tout le monde, surtout pour les enfants. Moi j'avais ma grande qui graduait cette année de l'université et puis elle l'a fait online, donc sur internet, c'était un peu différent pour les jeunes, mais on est resté confinés un mois ici en Floride, en tout cas, tout le mois d'avril. Donc, on a pu passer du temps tous ensemble avec toute la famille, avec les trois enfants, avec ma femme également, chose qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps. Donc, on a pu se redécouvrir, j'ai envie de dire. Et voilà, donc on a respecté un petit peu toutes les règles, rester à la maison, éviter de sortir. Et puis, progressivement, on a eu l'autorisation de retrouver une activité. Mais ça a été difficile et puis, ce n'est pas encore fini surtout.
Oui, c'est ça, c'est la question que j'allais te poser justement. Vous en êtes où aujourd'hui?
L'activité a repris doucement. Moi, j'ai une petite académie ici à Boca, donc tous les matins, je vais sur le cours. Et l'après-midi, c'est calme. Mais malheureusement, on voit de plus en plus de cas positifs ici en Floride. Donc voilà, je crois que les gens devraient respecter un peu plus les consignes sanitaires. Mais voilà, en tout cas, moi je respecte.
Mais il n'y a pas de reprise actuellement là. C'est pas le cas en tout cas dans ta région. Parce qu'il y a quand même des endroits aux États-Unis où j'ai l'impression que ça ne se passe pas très bien.
Oui, en Floride, c'est compliqué. Oui, c'est là où il y a eu beaucoup plus de cas depuis 3-4 semaines. Mais bon, voilà, il y a quand même les restaurants qui sont ouverts, même avec une capacité réduite. Pour le week-end dernier, c'était le week-end du 4 juillet, les plages étaient fermées. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de tournoi, même s'il y a quelques exhibitions. Il y en a eu une ce week-end à Atlanta. Ici, il n'y en a pas encore. Les tournois ont été un petit peu annulés également ce week-end. Donc, parce que c'est remonté, il y a de plus en plus de cas, donc il faut faire attention. Ouais.
D'accord. Toi, tu en as profité pour faire des choses en particulier pour, je sais pas, t'entretenir physiquement ou manger plus que d'habitude, je sais pas.
Oui, un peu de sport. J'ai pu, dans la résidence où je suis, j'ai pu faire un peu de sport, on a pu jouer un peu au tennis, juste pour les membres, vélo, un peu courir, passer du temps avec les enfants. Donc déjà aussi, rien que se retrouver à table, tous les cinq, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et puis, discuter, échanger, essayer de mettre un peu tout ce qui était téléphone, iPad de côté, les réseaux sociaux et justement communiquer mieux et plus. Donc voilà, on a beaucoup plus échangé.
Donc beaucoup de moments en famille. Et donc toi, enfin, justement, on parlait de toi un petit peu. Capitaine de Coupe Davis, ça tout le monde le sait aujourd'hui, mais tu fais d'autres choses, tu as d'autres activités. Tu en parlais justement, tu disais que tu allais tous les matins ouais. dans une académie que tu diriges, ouais. c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc avec la société Ténium et mes partenaires, on a lancé cette académie également, ça va faire pratiquement 2 ans. On était dans un club et puis là, par rapport à la pandémie, on a dû changer de lieu depuis quelques mois. Mais voilà, on a un programme de jeunes entre 9 et 18. Donc voilà, donc on les fait venir un peu tous les matins parce que déjà l'après-midi, il fait beaucoup plus chaud et puis on a un peu les pluies tropicales les après-midi. Donc c'est difficile de jouer. Donc on essaye de regrouper un peu tout le monde le matin. Donc je reprends du plaisir à aller sur le terrain avec des jeunes.
Donc tu tapes avec eux, tu les entraînes? Tu les
entraînes? Oui, oui, oui. Tout à D'accord. fait. On a un groupe de 5-6 coachs également. Donc, il y a d'anciens joueurs. Il y a Cyril Saulnier également qui fait partie de cette équipe. Et puis, d'autres entraîneurs comme José Antonio Fernandez, quelqu'un qui a voyagé pas mal d'années avec Steffi Graf à l'époque. Donc, voilà, on a une belle équipe d'entraîneurs et puis on a un bon groupe de jeunes. Et voilà, on a accueilli quelques pros également qui sont venus taper avec ces jeunes-là. Il y a eu Adrien Manarino qui est venu plusieurs fois, Tiafo également. On a eu Tommy Paul et puis ce matin on a eu Vika Azarenka qui est venu taper également. Donc c'est bien aussi pour ces jeunes de voir ces champions s'entraîner et l'intensité qu'ils mettent dans chaque entraînement.
Tu parlais donc de Ténium, hein, donc il y a l'académie, donc c'est un programme donc de détection ou c'est aussi simplement des semaines de stage où but est de former des champions?
Oui, alors Ténium c'est une compagnie où on est aussi propriétaire d'événements. Donc, on a des tournois ATP 250, on a des exhibitions également, une société de management et puis cette académie-là où je m'investis également puisque c'est ici en Floride, à Boca. Donc, non, c'est plutôt de travail dans la durée. Donc, pour l'instant, on n'a pas notre propre académie, notre propre lieu en fait. On n'est pas propriétaire, donc on fait pas de stage, mais on fait surtout de l'entraînement et de développer des joueurs, soit pour qui partent sur le circuit ou alors pour aller en université et avoir une bourse. Donc, on en a quelques-uns qui vont commencer au mois d'août dans de bonnes unis.
D'accord. Vous en avez beaucoup déjà, tu disais, de jeunes?
Oui, dans le programme, on a à peu près entre 25 et 30 gamins.
Qui viennent d'horizons très différents, qui sont un peu de partout ou américains principalement?
Alors, plutôt d'ici, du coin. Également aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui se déplacent pour venir en Floride, pour utiliser un peu les infrastructures ou les académies. Donc, il y a vraiment des familles qui déménagent pour mettre leurs enfants dans les meilleures conditions pour s'entraîner. Donc, voilà, on a à peu près 25-30 gamins. On a quelques gamins qui vont partir en Univ, là, que ce soit à Pepperdine, à UCLA également ou à Duke. Donc, il y a quand même des jeunes qui arrivent à partir dans de bonnes écoles et puis après on verra s'ils arrivent à aller sur le circuit après l'université. Donc voilà, on n'est pas là que pour former des joueurs professionnels mais également des jeunes pour aller en Univ.
Et une question un peu idiote, tu sais que j'en ai
pas
mal.
Il n'y a pas de question idiote.
Tu sais que j'en ai pas mal, hein, Seb.
Il n'y a pas de question idiote.
Mais non, mais pourquoi en Floride et pas en France, hein, par exemple?
Ça fait 20 ans que je vis ici. Ça fait depuis 99 je suis aux États-Unis. Donc voilà, c'était pour avoir également une activité, rester au contact encore plus du terrain, pour me former également à l'entraînement, parce que coacher sur le circuit est complètement différent que de former, que d'entraîner des jeunes. Donc j'ai appris ça également avec des personnes autour, mais rien n'empêche dans l'avenir de le faire en France et également qu'il y ait des Français qui viennent ici pour utiliser les infrastructures et s'entraîner ici. Adrien Manarino a fait quelques séances avec nous. Donc voilà, la porte est ouverte, bien évidemment.
D'accord, ok. Tu parlais justement, là, je rebondis sur le coaching de pros hein, et non pas de jeunes. Ouais. Je sais que tu as coaché aussi Richard longtemps, je ne sais pas, plusieurs années.
Oui,
hein.
Ouais, on a fait pratiquement 5 ans. Ouais.
Ouais. Et Kyrgios aussi, enfin, je me suis souvenu de ça, alors je ne sais pas, quelques mois peut-être.
Ah. Ouais, Ça a été moins long qu'avec
Ça a été moins
Richard.
long, ouais.
Ouais, on a
Et
fait à peu
t'en
près.
retires quoi de ces deux expériences? Enfin, si tu pouvais nous en parler un petit peu.
Bah, avec Richard, c'était top. J'ai vraiment passé de super moments. Si j'avais pas eu justement autant de voyages à faire, j'aurais continué encore plus avec Richard. Parce que je me suis régalé, j'aurais continué encore avec lui à ses côtés. Mais les voyages avec une vie de famille, c'est pas évident parce que ça, on demande de passer plus de 20 semaines sur le circuit. Donc c'est quand on a joué déjà, et toi tu le sais, on est tout le temps en déplacement. Donc lorsqu'on a une famille, c'est vrai que c'est pas évident. Mais voilà, j'ai appris et se mettre au service du joueur, tout simplement. Donc on doit prendre du recul, on doit mettre le joueur en avant. Et donc il faut apprendre à faire ça. Donc pour cela, il faut déjà faire le deuil un peu de sa carrière et passer à une nouvelle aventure, ouvrir un nouveau chapitre.
Et c'est quoi?
Et
C'est accepter un peu d'être dans l'ombre quand tu dis ça. C'est après moi j'ai jamais coaché donc je me pose ces questions et pour en avoir discuté avec quelques-uns d'entraîneurs, de coachs, mais anciens joueurs comme toi, c'est la question. C'est à la limite c'est pas grave d'aller donner les raquettes accordées à la seule condition qu'il y ait de la transmission et qu'il y ait de l'échange et que le joueur t'écoute. Le jour où il t'écoute plus, c'est le problème en gros. C'est un petit peu
Oui,
ce que j'ai
ben,
retenu.
donc il faut que déjà la démarche vienne du joueur de choisir un entraîneur. Il faut qu'il se responsabilise et qu'il ait confiance. Donc il y a une confiance à gagner déjà entre le joueur et l'entraîneur. C'est pas être dans l'ombre du joueur, mais être plutôt au service pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles et le faire évoluer. Donc il y a des échanges. Il faut bien communiquer avec son joueur. Amener les raquettes chez le cordeur, ça fait partie du job. Si on n'a pas envie de le faire, on ne fait pas ce métier-là. Donc, je crois qu'il faut justement faciliter un peu tout ce qui est autour et qui peut être contraignant pour un joueur, pour qu'il ait juste l'esprit tranquille et qu'il soit prêt à jouer. Donc voilà, moi je garde une expérience, une belle expérience avec Richard. On est toujours proches, on communique beaucoup. Et avec Nick, c'était un peu plus différent parce que déjà, il y a la personnalité, il y a fort caractère et c'était plus quelques semaines. Moi, j'avais envie de passer plus de semaines avec lui à l'entraînement qu'en tournoi. Parce que c'est pas du tout le même joueur, la même personne lorsqu'il est ici en Floride, lorsqu'on était à Boca à l'entraînement ou sur les tournois. J'ai passé le bon moment ici et en tournoi, c'est beaucoup plus difficile. C'était beaucoup plus difficile. À gérer,
Pourquoi tu sentais que tu avais moins de prise sur lui quand il était en
Ouais, tout
tournoi?
à fait. En tournoi, ouais, il y avait beaucoup de choses qui perturbaient, donc c'était beaucoup plus difficile d'échanger, de communiquer. Et il a besoin d'une certaine, de mettre une routine, voilà, à l'entraînement, d'avoir un peu plus des règles, et après pouvoir s'exprimer sur le terrain. Mais voilà, on a fait 8-9 mois, et après, c'est difficile. Lorsque le joueur sur les tournois est un peu moins réceptif de pouvoir apporter.
Qu'est-ce qui lui manque? Il manque de stabilité, il n'est pas assez concerné régulièrement. Qu'est-ce que tu dirais justement après ces 8-9 mois? Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour, parce qu'il a le tennis pour aller chercher
Moi,
ce
j'ai
tremplin. Alors
trouvé,
tu vas me dire, il y en a plein qui manquent
oui,
avec le
mais il
tennis,
a,
mais.
voilà, est-ce qu'il a envie de tout faire pour aller le plus haut possible? Donc, ça, il y a quand même des sacrifices à faire. Et peut-être qu'il n'était pas prêt à le faire. Il est monté très vite, très haut, peut-être avec son talent, purement avec son talent. Et il faut travailler encore un peu plus pour arriver en haut et surtout pour rester au plus haut niveau. On sait qu'il est capable de battre les meilleurs. Maintenant, aujourd'hui, battre les meilleurs dans les grands rendez-vous, en Grand Chelem cette fois, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, je crois que ça part de la volonté du joueur. Mais voilà, j'ai passé des mois super avec lui et puis on communique de temps en temps également. Donc c'est un joueur très attachant. Voilà, c'est un joueur très attachant qui fait du bien aussi au tennis et on aimerait bien sûr le voir évoluer à son meilleur niveau à chaque fois, quoi.
Ouais, non, mais c'est exactement ça. Tu parles du coup de raquette qui est fantastique, de ces frasques parfois qui font aussi beaucoup de bien aux téléspectateurs, aux spectateurs. Enfin, il y a une attente, hein, autour de lui, hein, assez extraordinaire. Mais c'est pas, enfin, voilà, c'est pas juste ces débordements qui font plaisir. C'est aussi son tennis, je trouve.
Bah
Et
oui.
c'est dommage, enfin, tu vois, non, parce qu'il a le potentiel, enfin, après, pour aller certainement remporter
Ouais,
des
bien
grands
sûr, il peut
tournois,
gagner
grands
Wim.
chelems. Alors on
Bien
est,
sûr, il
ouais, je
peut
pense
gagner,
que c'est
ouais.
possible. Et c'est toujours un
Oui.
peu décevant parfois,
Mais.
tu vois, de pas le voir aller au bout de son truc.
Oui, alors, moi, j'aime pas me mettre à l'extérieur et juger un joueur, dire que c'est décevant ou de dire il gâche un peu. Ça doit venir du joueur. Et pour lui, est-ce qu'il est heureux comme ça? C'est ça. Est-ce qu'il a envie de, voilà, de continuer à s'amuser et de, voilà, et de s'entraîner, mais pas d'être, de donner le maximum pour être le plus fort possible? Je sais pas. En tout cas, il a l'air d'être bien, quoi, dans ses baskets. Voilà, on le voit sur les tournois. Il y a des grands matchs. Moi, je l'ai vu faire des grands matchs face à Richard d'ailleurs, deux fois à Wimbledon. Ça a été des grands matchs de tennis. Et derrière, il avait même battu une année Rafa à Wim. Donc, on l'a vu faire des grands matchs. Mais le très haut niveau, c'est une régularité. Et pour l'instant, c'est ce qui manque à Nick, il a ses coups d'éclat, il a des performances qu'il est capable de réaliser, mais il manque encore un peu de stabilité au plus haut niveau.
T'as vu là, à post-confinement, que pas mal de compétitions non officielles fleurissaient un peu partout pour permettre aux joueuses et aux joueurs de jouer, de s'entraîner, de matcher, enfin de revenir à la compétition. Ce qui s'est passé sur l'Adria Tour, t'en penses quoi? On a pointé du doigt énormément, enfin Djoko, pour justement ne pas avoir été suffisamment rigoureux. Toi, ton
Oui, ouais,
sentiment?
je pense qu'il a, il a débordé parce qu'il avait sûrement l'autorisation hein, d'organiser un événement. Ça part de bonne intention. Il voulait redonner un peu de bonheur et peut-être également pour une cause associative. Maintenant, ça allait trop loin. Je pense pas qu'il avait l'autorisation d'avoir 5 000 personnes, peut-être un peu moins. Et c'est vrai que ils en ont fait un peu trop. Peut-être qu'ils se sentaient ils étaient peut-être en sécurité tout simplement là-bas parce qu'il y a eu très peu de cas, beaucoup moins qu'ailleurs. Et voilà, c'est regrettable, mais je pense que on doit se servir justement de cet événement pour la suite, pour organiser et laisser rien au hasard, parce que malheureusement le virus est toujours là et
Ouais.
il se propage. Donc il y a quand même beaucoup de cas. Maintenant, il faut rester vigilant. Je pense que et je crois savoir que les joueurs sont en bonne santé maintenant, mais c'est surtout les personnes autour, parce qu'il y a eu des cliniques. J'ai vu qu'il y avait aussi des cliniques avec
Ouais.
des jeunes.
Des
Donc
soirées aussi.
voilà. Oui, alors les soirées, j'ai moins vu les soirées parce que je regardais la journée l'exhibition.
Non, mais
Donc j'ai vu qu'il y avait
après
des
moi,
cliniques.
c'est plus ce qui a été relayé, tu vois, dans la presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux, et on a pu voir quand même qu'il y avait des débordements assez importants, et c'est ben voilà, dommage en effet, parce que comme tu dis, ça part d'une bonne intention, mais ils sont allés un petit
Oui,
peu
je
loin.
crois
Enfin,
qu'il
moi,
faut,
j'ai
il
trouvé
faut.
ça choquant
Oui,
après.
ouais. Mais après, on voit que dans chaque pays, même aux États-Unis, là, chaque État, il y a des règles différentes. Et je pense qu'il y avait l'autorisation d'organiser un événement, mais peut-être qu'il en a fait un peu trop. Il en a fait un peu trop et il s'est laissé aller au lieu de garder cette vigilance et respecter un peu plus les règles. Donc voilà, maintenant il faut se servir de cet événement-là pour pas que ça se reproduise.
Tu as suivi l'UTS, Ultimate
Oui.
Tennis Showdown. Est-ce que tu as suivi un petit peu? Alors, le principe, c'est, de manière très radicale, de vouloir moderniser le tennis. Okay? De dire à tous les conservateurs, ça suffit, soyons un peu plus progressistes, avançons, mettons un gros coup de pied dans la fourmilière. Et c'est, enfin, voilà. Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Est-ce que, alors, il y a plein de choses, hein. Il y a le coaching on court. Il y a les décartants, il y a l'assouplissement du code de conduite.
C'est
On n'est
bien pour
pas.
Benoît.
Alors, écoute, tu sais quoi? Ça, c'est un bon débat. Et ça, c'est un bon débat. Est-ce que c'est bien pour ceux qui déjà ont tendance à dévier? Bah, tu sais quoi? Je suis pas certain. Au contraire.
Le joueur peut s'exprimer plus et je pense que les gens aiment ça, voir un petit peu plus la personnalité du joueur. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense que les cartons, c'était pour rentrer dans des programmes télé, pour savoir exactement. Parce qu'un match de tennis, on sait quand il débute, on ne sait jamais il se termine.
Tu peux faire le lien avec la casquette maintenant du propriétaire de tournoi et donc avec tous les broadcasters et tout ça. Non, mais c'est un vrai sujet. Est-ce que aujourd'hui tu es pour diminuer la durée des matchs de tennis ou non, pas foncièrement?
Pas forcément, parce que sinon, il y a quand même l'aspect physique qui doit rentrer. Si on diminue, si on fait des matchs de 1 heure, l'aspect physique
la
ne rentre
physique.
Pas.
Ouais.
Non, plus du tout.
D'accord.
Et derrière, qu'est-ce qu'on fait sur les grands chelems? Donc, si on fait des tournois comme cela avant, sur un match de grand chelem derrière, il n'y a pas du tout de préparation. Je pense que d'essayer de nouveaux règlements, c'est une bonne chose d'essayer avec les cartons. Je sais qu'il n'y a que 15 secondes, je crois, également entre les points. Donc, c'est peut-être plus court, mais c'est plus intense. Non, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ça donnait bien. Alors, il n'y a pas de public aussi, donc c'est différent. Mais c'est une bonne idée d'essayer d'innover pour voir comment les gens déjà réagissent, les joueurs, les médias également, parce que c'est important lorsque l'on a un événement, les droits télé, ça fait partie des revenus pour un événement pour pouvoir offrir un bon prize money. Donc, ça fait partie de tout. Donc, je crois qu'il faut se mettre autour d'une table et puis demander également aux joueurs qui ont disputé l'événement ce qu'ils en pensent. Ouais.
Bien sûr, le coaching on court, t'en penses quoi? Toi, t'es plutôt favorable? Tu trouves que c'est hypocrite, qu'il existe déjà? Tu penses qu'il faut ouvrir une, deux fois par set, j'en sais rien, fin de set?
Oui, alors déjà, déjà, on voit sur les tournois, il y a déjà quand même un peu de coaching. Moi, je suis pas contre le coaching. Je pense qu'on peut, lorsqu'il y a un joueur qui passe du côté de l'entraîneur, passer un ou deux messages, faire passer un ou deux messages. Et puis la même chose pour l'autre joueur. Donc ça se fait un petit peu. Je pense qu'on pourrait le faire.
Mais je trouve pas ça pareil.
Que ça soit officiel.
Et moi, je trouve pas ça pareil justement que de passer 1 minute 30 à pouvoir parler à un joueur et sur 10 secondes lorsque tu vois tu as ton joueur qui passe devant toi pouvoir lui donner 2-3 mots ou du soutien ou un regard. Je trouve que c'est pas pareil en fait. Et tu parlais donc de la dimension physique. Si on raccourcit les matchs, j'ai l'impression qu'on enlève un peu de dimension mentale si tu acceptes un peu plus le coaching on court, surtout qu'il y a des joueurs qui s'en servent énormément.
Mais
et qui
moi
sont
je
supérieurs
parle...
aussi et qui arrivent à compenser
moi
grâce
je...
à ça.
Moi, je ne parle pas du coaching d'une minute trente au changement de côté. Hein. Moi, je parle des petits messages faire passer.
D'accord, de laisser,
en
fait.
Voilà.
Ces moments-là,
en ce moment.
Okay. Ne pas mettre de warning, d'avertissement.
Voilà,
pour
exactement.
Coaching, quand tu. Ok, d'accord, mais c'est différent.
Quand...
C'est pas... Donc, c'est...
Oui,
d'accord,
ben, ben oui, parce qu'après, je crois que la force du joueur de tennis est également de trouver la manière dont il va gagner, la tactique, ça fait partie du jeu. Donc, il a plusieurs options et voilà. Et s'il y a des petits conseils donnés par l'entraîneur, pas au changement de côté, mais lorsqu'il est du côté du coach, moi, ça me choque pas ça.
Mais
voilà.
C'est
et puis après,
déjà
c'est
le cas.
Joueur.
Mais ça, je
oui,
comprends.
Oui, mais
ça, je l'entends.
Donc, il faudrait peut-être l'officialiser un peu plus comme ça.
Oui.
L'officialiser en disant voilà. Mais le coaching, 1 minute 30 au changement de côté. Bon, voilà, il y a déjà la Coupe Davis où il y a ce moment-là où il y a le capitaine qui est sur la
ouais.
chaise. Mais après, je crois qu'on doit rendre indépendant également le joueur qui trouve la solution lui-même. Et ça fait partie du tennis. Donc, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect technique et il y a l'aspect également tactique.
Et l'aspect mental, évidemment. Je suis d'accord.
Mental, oui, voilà.
C'est clair. Non, mais et justement, tu vois, moi, on a débattu un petit peu avec l'ensemble des intervenants précédents. Alors après, est-ce qu'on est un peu vieux jeu parce qu'on a… connu que ça et j'en sais rien, peut-être que c'est aussi
non mais après il y a autre chose, on est le seul sport aujourd'hui, si on regarde tous les autres sports, on est le seul sport où voilà, où il n'y a pas de coaching. Nous dans le tennis sur la compétition, on est le seul sport, parce que même au golf où il y a le caddie, il y a vraiment beaucoup d'échanges avec son caddie, donc on est vraiment, c'est vrai, le seul sport. Après, si on élargit, pas tout le monde peut se permettre d'avoir un entraîneur également si on a, selon son classement. Les 100 premiers, il n'y a aucun problème. Après, dès qu'on sort des 100 premiers, les joueurs partagent des entraîneurs. Donc
ça crée quoi, des inégalités en fait, tu trouves?
Ça peut encore creuser encore plus à ce niveau-là. Mais je pense que officialiser un petit peu cette relation sur le coup entre le joueur et l'entraîneur lorsqu'il y a le joueur qui passe du côté, et pour faire passer un ou deux messages, Je pense que déjà, ça peut être bien, ouais.
D'accord, faudrait le tolérer en fait. Ok.
Oui, il faudrait le tolérer. Alors, pas crier de l'autre côté du terrain, bien évidemment. Mais voilà, je crois que ça se fait déjà. Et voilà,
Alors,
Christian.
et justement, on en parlait là, le code de conduite. Alors, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Toi, tu dis, il faut l'assouplir. Non, mais moi, je suis entièrement aussi, enfin, d'accord avec laissons les joueurs s'exprimer.
Un peu plus, oui,
Plus,
il faut
un peu
qu'il
plus.
s'exprime un peu plus.
Dans certaines limites, quand même.
Oui,
Après,
ben
il y a
ça, c'est
toujours un
l'arbitre qui doit
devoir.
juger.
Oui, non, ouais, mais après, c'est pas facile. Il faut qu'il y ait des règles. L'arbitre, il doit juger, mais il faut qu'il fasse respecter le règlement. Parce que derrière l'arbitre, c'est quand même très compliqué pour lui, si tu veux, que ce soit à son appréciation. C'est quand même assez glissant pour lui. Donc,
Oui, il y a des règles à avoir. Il y a des règles à avoir.
voilà.
Après, je crois qu'on peut mettre des avertissements. Après, il faut faire attention aux amendes aussi, parce qu'il y a une différence selon l'événement. La valeur de l'amende est différente. Donc,
Ouais.
on peut, pour le même avertissement, avoir une plus grosse amende si on est dans un grand rendez-vous, s'il y a la télé, tout ça. Donc, oui, je crois qu'il faut, si un joueur, ouais, s'énerve, casse une raquette, bon, il y a un avertissement, il n'y a pas forcément besoin de mettre des amendes à chaque fois derrière. Mais voilà, le sanctionner sur le terrain par rapport à son
La
attitude,
suppression. Moi, je
et
pense que
l'amende.
tu sais quoi, c'est la suppression de certaines amendes plus que d'assouplir vraiment le règlement du code de
Ben
conduite sur le
voilà.
terrain. Parce que
Ouais.
sur le terrain, quand ils pensent, on les connaît ceux qui s'expriment, ceux qui ont envie de s'exprimer, ils s'expriment déjà dans l'absolu. Et ceux qui disent rien se contrôlent. Et c'est, tu vois, c'est en eux aussi. Donc finalement, j'ai l'impression que si tu permettais justement d'aller beaucoup plus loin à des joueurs qui déjà sont borderline, je pense que ça serait, mais même dommageable pour eux en fait. Je pense que tu sais quoi? Ils en souffriraient, ils en seraient pas bénéficiaires du tout. En fait, je crois que tu vois, tu parlais de Benoît par exemple et d'un Nick Kyrgios. Je pense que si ils ont la possibilité, je parle pas sur les grands chelems, pas sur, mais sur plein d'autres tournois où c'est quand même pas toujours d'une grande motivation pour eux, je pense qu'ils pourraient déborder très
Mais je crois
souvent
que
et trop
ça
régulièrement.
dépend. Oui, mais ça dépend en fait un peu des faits de jeu. Ça dépend des situations. Ils peuvent être sur un terrain où ils sont peut-être un peu moins motivés parce qu'il n'y a pas la télé et ça se passe bien. Ça dépend ce qui se passe dans le match. Ça dépend pour eux une erreur d'arbitrage ou des erreurs un peu faciles. Et c'est là où ils commencent à s'agacer, à s'énerver et où ils peuvent un peu disjoncter, comme on dit. Mais
Oui, mais ça les freine
il y a des
aussi
joueurs.
à un moment. Ça les freine aussi et ça fait que justement, ils ne se font pas sortir du terrain parce qu'ils savent très bien qu'ils vont à l'extrême limite.
Après, il y a d'autres joueurs qui ont appris également à canaliser un petit peu cette énergie pour se contrôler un peu mieux également sur le terrain. Et parce que pas tous les joueurs qui arrivent sur le circuit sont calmes ou sont. Ils ont travaillé là-dessus également, sur cet aspect mental. Donc, il faut qu'ils s'expriment, mais parfois, lorsqu'ils sont un peu trop, bah, ils débordent et surtout, bah, ils jouent moins bien. Le résultat est moins bon. Donc, non, je crois qu'au niveau du règlement, le règlement est assez bien fait, moi, je trouve. Voilà, de savoir un petit peu également à quel moment aussi sanctionner, prévenir le joueur avant de lui mettre un avertissement, de lui dire de se calmer. Et puis après, bien sûr, au niveau de l'amende, derrière, parce que
Un peu
elles
plus,
peuvent
donc
être.
être un peu plus tolérant et un peu plus de pédagogie de la part des arbitres.
Oui, je pense. Et
Ouais.
il faut voir un peu d'émotion quand même sur le terrain.
Non, mais
Voilà.
ça, ouais, t'as raison, on
Voilà.
est d'accord. Seb, on va enchaîner avec le dernier sujet. C'est la Coupe Davis quand même, parce qu'on n'en a pas parlé. Capitaine de Coupe Davis. Alors, j'imagine que tu dois être très déçu cette année. Je crois avoir lu ton propos qui disait que la décision avait été prise peut-être trop rapidement.
Oui, tout à fait. Surtout qu'il y a des événements en Europe qui vont reprendre au mois de septembre, dont le Tour de Madrid. Il y avait aussi d'autres tours de Coupe Davis qui se jouaient en septembre. Apparemment, pas toutes les rencontres pouvaient se disputer. Donc, c'était un peu compliqué. Mais bon, on aurait pu peut-être attendre un peu plus
Ouais, avant l'annulation.
avant de prendre la décision. Voilà. Ouais. Après,
Toi,
il y a les instances. Ouais.
t'es, enfin, encore une fois, tu es plutôt un défenseur, un des seuls, j'allais dire, mais tu as vu, je ne l'ai pas dit, je le rajoute.
Non,
Défenseur de la nouvelle
non.
formule. Qu'est-ce qui te plaît dans cette nouvelle formule et qu'est-ce, parce qu'en fait, moi, mon sentiment, c'était, et comme beaucoup, et je sais que, mais tu peux le partager aussi, on peut être plus nuancé. Moi, c'est de dire, oui, la coupe Davis était malade, on aurait pu la soigner avant de changer de compétition.
Oui, non, mais ça fait ça. Alors, ça va faire peut-être plus de 10 ans qu'elle est malade, la coupe Davis. Ouais. Plus de 10 ans, au moins. Parce que on est mal habitué en fait en France. On se rend compte de l'événement à chaque fois. Alors moi je l'ai joué et puis lorsque je venais également sur les événements, je suis venu voir une rencontre et supporter l'équipe de France avec ma famille une année à Clermont-Ferrand lorsqu'ils avaient joué contre l'Espagne. J'ai fait des déplacements et puis après je venais également pour commenter et je voyais cette ambiance qui était exceptionnelle en France sur une rencontre avec le public. Cette communion qu'il y avait, c'était formidable. Mais on était unique à ce niveau-là, en France. Il y a des rencontres qui se passaient dans d'autres pays où il n'y avait pas grand monde, où les fédérations perdaient de l'argent en organisant des rencontres de Coupe Davis. Les joueurs, les meilleurs, avaient du mal à jouer chaque rencontre et de redonner encore plus de valeur à cette compétition lorsque il y a des tours de Coupe Davis juste après l'Australie. On sait que les meilleurs, ils ne peuvent pas jouer. C'est compliqué. Donc, il fallait réformer cette Coupe Davis depuis longtemps. Et je pense qu'on l'a trop attendu. Et derrière, ben voilà, on a eu ce format plutôt de Coupe du Monde. Coupe du Monde sur un même lieu. Ouais. Mais moi, j'aurais préféré que toutes ces personnes, en fait, qui conteste un peu cette nouvelle formule, se réveille avant.
D'accord.
Et pas une fois trop tard.
Non, mais ça, tu as certainement raison là-dessus. Après, moi, je ne remets pas en cause le fait qu'il fallait se réveiller plus tôt. Je dis juste que la radicalité du changement, tu vois, pour moi, on ne parle pas d'évolution et de réforme, on parle d'une révolution. Et simplement, quand tu parles de valeur, la valeur, tu la crées avec la rareté. Et la rareté, si tu la remets chaque année, je ne vois pas comment créer de la valeur. Moi, c'est un vrai sujet, un vrai débat.
Alors, il y a que la phase finale, hein, qui se joue sur un même lieu. Toutes les autres rencontres se jouent
sur un même lieu. Oui, mais chaque année quand même. Je parle de rareté pour créer de la valeur.
Oui.
Tu parles de valeur. Tu vois ce que je veux dire?
Mais après, il y a eu ce changement également qui est venu.
Tu crois que chaque année, les meilleurs vont aller jouer?
Si leur pays est qualifié automatiquement, ils peuvent. Après, il y a peut-être qu'un tour également à jouer. Il y en a plus quatre pour gagner la Coupe Davis. Il peut avoir le tour préliminaire qui est au mois de mars, donc ils peuvent jouer ce tour. Et s'ils sont qualifiés pour une phase finale, c'est jouable également pour les meilleurs de faire ces compétitions-là. Après, si on l'a fait tous les 2 ans, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui disaient qu'il fallait la faire tous les 2 ans, il y a beaucoup moins d'argent derrière pour les fédérations. Donc le problème financier, il sera toujours pour les. Il sera toujours présent pour ces fédés-là. J'en ai parlé souvent avec Arnaud, bien sûr, là-dessus. Les fédés, ils ont besoin d'événements pour gagner de l'argent, d'avoir leur propre événement. S'ils ont des tournois, c'est bien. La Coupe Davis, s'ils peuvent organiser et gagner de l'argent, c'est bien aussi. Parfois, ils n'y arrivaient pas. Donc, hormis les fédés Grand Chelem qui ont l'argent, les autres fédés n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, il est là le problème pour ces fédés, pour les joueurs également, d'aller jouer chaque rencontre. Je suis ouvert à plein d'autres formules, bien évidemment. J'étais attaché à cette compétition à domicile, à l'extérieur, bien évidemment. Mais il faut que les meilleurs jouent. Et ça faisait longtemps qu'ils ne jouaient plus. Ils choisissaient en fait leur moment. Ils ne pouvaient pas tout faire.
Attends, mais tu as raison. Après, on verra, il faut laisser la chance au produit, mais je suis sceptique dans la durée, chaque année, de voir les meilleurs en fin d'année aller jouer la phase finale.
Il faut tout,
je suis sceptique.
Peut-être qu'il faudra la faire tous les 2 ans, si ça marche aussi sur le plan économique pour les fédérations, parce que les fédés également ont besoin de cette Coupe Davis pour gagner de l'argent, pour redistribuer également. Dans les clubs, dans le monde, chez les bénévoles également, hein, dans tous les clubs de tennis. Donc il faut voir, il faut essayer en tout cas.
Mais après,
on l'a trop attendu. Okay. Je pense qu'on l'a trop attendu pour réformer la Coupe Davis. Et que moi, je, je l'ai joué. Toi aussi, toi, tu as vu ce que c'était la Coupe Davis. Mais on est en France, on ne peut pas juger. Parce que c'était, voilà. On a vu l'autre, il y avait, je crois, une demi-finale en même temps, Croatie-États-Unis. Bah, le vendredi, il n'y avait pas grand monde non plus dans les tribunes. Et c'était une demi-finale de Coupe Davis. Donc, en France, on a toujours rempli des stades. On a joué l'Espagne sans Rafa. Il y avait 17 ou 18 000 personnes. C'est exceptionnel. C'était exceptionnel. Bon, et s'il est là, ben, on remplit comme quand on joue les Suisses de Roger et Stan, et il y a 27 000. Mais c'est en France. Et parce que ben, c'est unique. Et il y a cette tradition de Coupe Davis en France. Et donc, peut-être que c'est cette tradition qu'on a perdue dans d'autres
Dans d'autres
pays.
pays.
Mais au niveau de la réforme, il fallait le faire parce que bah, déjà l'ITF va pas bien, tout le monde le sait.
Ton rôle de capitaine aujourd'hui, bon bah annulation cette année, pas de bol,
Mais surtout qu'il y avait les JO aussi, parce qu'il y a
hein.
aussi
Oui.
dans ma mission, il y
Donc
a
contrat,
aussi
ouais, d'accord.
les
Les Jeux
Jeux
Olympiques.
Olympiques. Et ça aussi, j'avais envie de le faire, tu vois. C'était quelque chose qui.
C'est que c'est décalé, hein, donc tout va se passer, donc tout va arriver.
Bah,
Mais toi,
bah
ta
on
manière
verra,
de
on
procéder,
verra.
ouais, non, mais
On verra
ta manière de
déjà comment ça va se
procéder,
passer.
ton rôle, justement avec une phase finale donc en fin d'année. Donc comment tu arrives à garder le contact, le lien avec les joueurs? Tu as mis une sorte de rétro-planning sur lequel tu rencontres tous les joueurs, tu leur passes des coups de fil. Enfin, quelle est un peu ta
Ouais,
méthode à toi?
on échange beaucoup avec les joueurs. J'essaie d'envoyer des messages et puis aussi avec leur staff, parce que par rapport à l'ancienne formule où il y avait un peu des voilà des réunions tous les 2 3 mois, puisqu'il y avait des rencontres, donc on pouvait se voir, passer du temps ensemble sur le court. Là, il y a quand même beaucoup moins, donc il devait avoir un peu plus de déplacements, voir les joueurs sur les tournois. Ce que j'avais envie de faire également, c'est d'aller voir un peu les joueurs sur leur lieu d'entraînement pour les voir évoluer avec leur staff. Mais sinon, j'échange avec leur coach également pour voir comment ça se passe, ce qu'ils font. Alors là, bon, ben, c'est difficile, je crois que pour tout le monde, hein, avec cette situation-là, c'est dur pour eux de s'entraîner sans objectif précis de reprise. Donc c'est difficile, mais oui, il y a beaucoup essayer de communiquer. D'échanger et puis d'aller les voir un peu sur les tournois ou les lieux, mais
D'accord, mais
c'est pas évident.
rien n'est trop écrit à l'avance. Enfin, tu vois un peu en fonction. Enfin, tu t'adaptes au programme des uns des autres. En fait, tu vois où ils sont tous un peu regroupés.
C'est pas évident parce que moi déjà l'année dernière j'avais organisé une petite préparation sur terre battue avant la tournée qui a mené jusqu'à Roland. Et en fait, chaque joueur a son propre programme. C'est vraiment difficile maintenant qu'il y a juste la Coupe Davis en fin d'année. Chaque joueur se prépare en fonction de ses événements. Donc voilà, il y avait des joueurs qui étaient présents, il y avait des joueurs qui avaient préféré jouer Marrakech à l'époque, qui était pratiquement en même temps. Donc c'est pas évident de regrouper tout le monde, et surtout chez les garçons. Alors peut-être que chez les filles, pour Julien, il y a moins de joueuses, alors que chez les garçons, il y a beaucoup plus de joueurs dans les 100. Et donc de réunir tout le monde, c'est pas évident sur un même lieu. Il y a toujours des programmes un peu différents, mais voilà, essayer de communiquer, d'être proche et de leur faire
Ouais.
sentir que s'il y a besoin, ben on est là avec le staff, bien sûr.
Et tu parlais de la tradition très ancrée en France de l'ancienne Coupe Davis. Aujourd'hui, ça n'a pas été compliqué de les faire adhérer à la nouvelle formule?
Non, je crois pas. Je crois qu'ils sont habitués. Dans les catégories jeunes, de jouer pour l'équipe de France dans des formules un peu identiques également que la nouvelle formule. Je pense qu'il y a certains joueurs qui ont eu plus de difficultés à accepter, bien sûr, ce changement de formule. Mais après, ça reste quand même l'équipe de France. Je crois qu'il y a quand même cette fierté de pouvoir représenter son pays en Coupe Davis, en équipe, de partager encore une fois sur des rencontres. Ces moments voilà, tous ensemble, que ça soit sur des dîners ou dans des vestiaires. Donc c'est pour certains joueurs, c'était peut-être plus difficile, mais avec le temps, je pense que ils ont commencé à accepter cette nouvelle formule, mais on ne sait pas comment ça va être dans les années à venir. Moi, j'ai trouvé également, puisqu'on a vu la dernière année avec le Canada. Et cette nouvelle génération, finalement, avec les Shapovalov, les Félix également, Gérard Yassine, ben, vraiment jouer à fond dans cette formule-là. Donc, donc il y a quand même des, il y a quand même des pays où il y a encore cette fibre équipe nationale. Après, ils ont un très bon, ils ont quelqu'un qui est très bon là-bas, Louis Borfiga également, qui a peut-être aidé à cela. Mais voilà, il y a des nations qui l'ont et il y en a qui l'ont un peu moins, mais ça a été plus difficile pour certains joueurs que pour d'autres. Ouais.
On vit un passage un peu de témoin entre deux générations. Tu sens la différence?
Ouais, je crois que on s'est pas vraiment rendu compte de cette génération qu'on avait, bon, qui arrive plutôt à la fin. Je crois qu'au lieu de les mettre en avant et de valoriser également leurs résultats, leurs performances, on a toujours été un peu trop critique, j'ai trouvé, par rapport à ces quatre joueurs, hein, je parle, parce que je pense que tu veux parler de ça, par rapport à Joe, Gaël, Richard et Gilles, ces quatre joueurs de la même génération, ces quatre joueurs qui ont été dans les 10, qui ont joué le Masters, qui ont gagné également la Coupe Davis, qui ont fait des finales et des demi de Grand Chelem, et en fait c'était exceptionnel leur carrière. Quand on regarde un Joe qui a fait finale au Masters, qui a gagné deux Masters 1000, et Richard qui a fait des demi également de Grand Chelem, comme Gaël et Gilles aussi avec sa performance d'aller dans les 10. Donc voilà, il risque d'avoir un petit creux comme dans chaque changement ou passement de témoins, mais parce qu'ils ont joué longtemps aussi, hein. Quelques-uns vont encore jouer encore quelques années, mais ils ont joué très longtemps. C'est peut-être que pour ça qu'on ne s'est pas rendu compte que derrière il y avait peut-être moins de monde. Ouais. Parce que bah, depuis que Richard a commencé peut-être à 15-16 ans à Monaco, bah, aujourd'hui il a 34 et puis il est toujours là. Donc si on regarde il y a longtemps, bah, c'était une carrière durée à peu près 10 ans. À 30 ans, c'était terminé. Aujourd'hui, des joueurs après 30 ans sont toujours au plus haut niveau. Bon, Roger est une exception, hein. Federer, c'est une exception. Mais voilà, des joueurs entre 30 et 35, bah, ils sont au top. Alors qu'avant, ils arrêtaient.
Donc, ce que tu veux dire, c'est que voilà, ces quatre-là, ils vont nous manquer quand même quand ils vont
Bien
arrêter,
sûr.
Parce que c'est quand même une génération exceptionnelle qui a montré de
ouais.
très
ouais,
belles choses pendant 15 ans.
C'est une génération exceptionnelle. Plus de 15 ans pour un Richard. Gaël aussi a commencé tôt. Joe, Gilles, ils sont restés là longtemps au plus haut niveau. C'est remarquable. Donc voilà, il y a quelques jeunes qui arrivent. Il y a quelques jeunes qui arrivent.
Ouais, parlons-en un peu de cette nouvelle génération, ta vision là-dessus.
Il faut les aider, les accompagner. On a la chance en France également d'avoir d'anciens joueurs quand même qui s'investissent. Donc, c'est une bonne chose pour ces joueurs. Ben, en parler, oui, je trouve qu'ils ont bien débuté l'année. C'est dommage qu'ils n'aient pas pu enchaîner malheureusement avec le virus. Ça a un peu stoppé un peu tout l'élan qu'avaient ces jeunes joueurs, là, les juniors. Puisqu'il y en avait 3 sur 4 quand même dans le dernier carré en Australie. Donc c'est bien. Chez les filles, il y a quelques jeunes également. Donc voilà, il faut les aider. Peut-être que la transition, elle est peut-être un peu plus difficile aujourd'hui à faire aussi. Mais voilà, on a quand même du potentiel avec quelques jeunes. Il y a toujours Lucas qui est très jeune, hein, également. J'espère que ça ira pour lui également physiquement. Mais il fait partie aussi de nos joueurs, nos forts joueurs, hein, qu'on a sur le circuit. Hugo Humbert également, qui a fait un bon début de saison, qui a gagné à Auckland, un Corentin Moutet. Donc, on a quelques jeunes. Hein, mais c'est vrai qu'il faut continuer d'évoluer, de progresser pour rentrer dans les 10. Lucas a été 10e. Voilà, pour aller chercher le haut niveau, il faut continuer de progresser. Il faut vouloir être un meilleur joueur de tennis année après année, tout simplement.
C'est ça. Je crois qu'on va conclure là-dessus. S'il y avait un message, parce que tu as parlé du coaching avec Richard, sans être rentré dans le détail, mais tu as parlé de Kyrgios et ce manque de stabilité malgré ses fulgurances. Là, on parle des plus jeunes aujourd'hui. Et s'il y avait un PM, et puis toi, par rapport à toi, joueur, ta carrière, tu as quand même, c'est ce que je disais, été quand même trois fois. demi-finaliste dans trois grands chelems sur quatre, ce qui n'est pas neutre, entre autres, hein, quatrième mondial. Enfin, toi, ce qui t'a animé, c'est aussi cette quête du progrès permanent. Parce que, oui. On parle des trois monstres, là, des trois ogres, et on en a parlé avec Richard, que j'ai justement reçu dans l'émission, et c'est ce qu'il disait. Il a dit, je crois, même sur tapis de salle de bain, ils auraient tout gagné.
Oui, non, mais il est très lucide, en fait, Richard, un peu également. Il connaît pas parfaitement le tennis. C'est un vrai passionné. Il connaît les joueurs. C'est, ce qu'on a dit. Ouais, c'est un vrai passionné.
Il est passionné.
Et c'est pour ça qu'il joue encore. C'est pour ça, parce qu'il aime ça.
Exactement. Mais toi, là, c'est juste ce truc-là, parce que tu es dans la transmission, tu as une académie, tu as été joueur.
Oui, mais j'aime ça. J'aime.
Tu as été coach
sur un court de tennis. Mais j'aime ça, essayer de transmettre également. Je crois que les joueurs là, les tout meilleurs, il y avait le Big Four, malheureusement Andy a eu quand même pas mal de blessures, mais je les ai joués en fait jeunes et j'ai vu l'évolution en fait de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, et année après année se sont améliorés sur le plan du jeu, tennistiquement. Techniquement, physiquement, ils ont fait évoluer leur jeu. On se rappelle de Rafa quand il est arrivé à Roland, où il gagne son premier Roland en 2005. Il faisait beaucoup moins de choses que peut-être 4-5 ans après, et peut-être encore moins qu'aujourd'hui. Mais il a voulu évoluer. C'est ce qu'a fait également Novak Djokovic. Novak Djokovic, quand il est arrivé sur le circuit, on l'a vu pendant un moment chercher son service. Il a fait d'énormes progrès au service. Derrière, il a fait d'énormes progrès également en coup droit.
Donc, c'est vraiment ça, en fait, la clé. C'est d'accepter, oui, de vouloir évoluer malgré des victoires,
de progresser,
malgré
des habitudes. Voilà.
De vouloir progresser toujours.
De vouloir progresser, d'être un meilleur joueur de tennis. Alors, parfois, pour progresser, on stagne ou peut-être on a l'impression de régresser. Mais ça passe par là, parce que si on n'a pas cette volonté de progresser, on régresse.
Seb, est-ce que c'est pas le mot de la fin, ça? Est-ce que c'est pas le mot de la fin? On n'est pas d'accord sur
plaisir.
Tout. Mais tu sais quoi? On va rester potes, hein?
Non, c'est là-dessus. Si on était pour faire évoluer, il faut avoir un peu des désaccords pour
avancer. Écoute, super.
Pour avancer, tout magnifique. Simplement.
Mille fois merci, Seb. Je me suis régalé. À très bientôt.
Avec
j'espère.
Plaisir. À
très
bientôt.
Vite. Déconfine-toi bien.
J'espère à Roland au mois de septembre.
Avec plaisir. Si tu viens, je serai là.
Ouais, je viens.
Allez, je t'embrasse. Ciao, ciao. Deep Talk, c'est déjà fini. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, si vous aimez, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.